Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec encore plus de sérénité, de tendresse, d'amour, d'affection, d'énergie positive. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de vous imprégner au maximum de ma femme d'aujourd'hui. Une femme qui n'a pas peur de s'élever, qui n'a pas peur de se réveiller, même si ça fait mal. Mais comme elle dit, c'est très important.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Dina Kadiri, bonjour, comment ça va ?
Bonjour Yasmine, Ramadan Mubarak, j'espère que tu vas bien.
Alhamdoulilah Dina, merci beaucoup. Alors Dina, beaucoup beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices te connaissent à travers tes émissions sur la radio Mohamed VI ou sur Sadissa également, la télévision. Une voix très douce, très reposante. Et aujourd'hui, on va découvrir le parcours derrière, derrière les émissions, la femme derrière les émissions, ok?
Ok.
Alors Dina, justement, comment tu as atterri dans les médias alors que je pense que à la base tu étais loin de ce secteur d'activité.
Effectivement, à la base je faisais des études de droit et c'était pas du tout dans le cadre du droit musulman ni dans le cadre des émissions de spiritualité. Mais bon, j'ai eu une occasion de travailler à Mohamed VI au moment juste de la création de la radio. C'est M. Abadi, qui est donc le secrétaire général de Rabita Mohamedia et des Ulama, qui m'avait donc proposé de faire un travail à la radio. Et bien, par la suite, ça s'est bien passé. Et au moment de la création de la chaîne de la télévision Sadissa, donc on m'a proposé de faire la même chose, mais à l'écran. Et par ailleurs, donc c'est quelque chose que, enfin, c'est un travail qui m'a énormément plu et dans lequel j'ai énormément grandi et qui m'a permis de, voilà, d'évoluer de la façon dont je voulais effectivement humainement et sur tous les plans. Et puis aussi d'avoir un regard sur la religion musulmane complètement différent, vu que, je parle énormément de toute la dimension humaine, du pardon, de l'amour, de la générosité. Enfin, c'est les sujets que je travaille le plus et je pense que c'est le sujet qui nous touche le plus.
Alors justement, tu parles de ces sujets, mais tu as aussi beaucoup écrit autour, pas mal de livres, justement. Mais ta formation de base, elle n'est pas dans la théologie.
Non, j'ai un doctorat en droit public. J'ai fait deux masters, justement, concernant donc les droits humains et les droits fondamentaux, donc c'est pareil.
Alors justement, tu nous as expliqué comment tu as intégré, comment tu as atterri, mais derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche, c'est la découverte de tout d'un champ qui est extrêmement pointu, précis.
En fait, le fait d'avoir étudié les droits humains, ça m'a permis également de comprendre toute une dimension dans le droit musulman. Pourquoi ? Parce que les droits humains, j'ai beaucoup travaillé les libertés intellectuelles et les libertés physiques, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté d'opiner, les libertés physiques, le droit à la vie. Et durant ma thèse de doctorat, j'ai travaillé justement sur les libertés physique et intellectuel en droit musulman. Et donc ça m'a permis de me rendre compte et de réaliser que en fait on recevait de la religion on avait déjà beaucoup d'a priori, puis on recevait des informations qui ne rendaient pas hommage à la révélation et qui n'honoraient pas le sens du message coranique. Et donc à travers ça, je me suis concentrée beaucoup sur ces libertés justement. Par exemple, la liberté d'opinion qui a été respectée du temps du messager et promue, la liberté de conscience également, etc. Et donc j'ai beaucoup vraiment travaillé sur ça et ça m'a beaucoup beaucoup ouvert les yeux sur tous ces droits finalement qui sont inhérents et intrinsèques à l'être humain et puis qui respectent la dignité de l'être. Donc c'est comme ça, donc doctorat en droit public, et puis par la suite ça m'a aidé. Même comme tu dis Yasmine, c'est vrai que je ne suis pas formée pour ça, mais bon, de toute façon je ne donne pas des leçons orales non plus, je ne les donne même pas moi-même. Donc voilà.
Alors Dina Kadiri, justement, on est en 2022.
Oui.
Pour toi, être femme aujourd'hui et femme d'aujourd'hui, ça veut dire quoi ?
Écoute, je pense que déjà, j'ai du mal à faire la différence entre femme et homme. J'ai d'ailleurs eu une petite altercation avec une personne il n'y a pas longtemps, juste à propos de ça. Et je parle beaucoup d'humanité, peut-être parce que c'est dans le cadre de mes études. Et pour moi, la femme d'aujourd'hui, ou la femme de demain, ou la femme d'hier, ou l'homme, c'est uniquement celui qui travaille les valeurs humaines universelles et qui essaie de les intégrer du mieux qu'il peut et les partager avec son prochain. Et je vois pas vraiment autre chose à part travailler sur les valeurs primordiales et sur la dimension d'amour qui devrait nous unir vraiment.
Est-ce que tu peux nous raconter l'altercation? J'aimerais bien. Je me demande comment Dina.
L'altercation, c'était en
Ah, tiens,
fait
lèche.
par rapport à l'égalité. Non, t'as raison. Non, non,
Tu sais
c'était sur
pourquoi?
la
Parce que par
sincérité.
rapport à. Enfin, quand on te voit, on se dit Dina, elle a des problèmes avec personne. Quand on t'entend parler, encore plus, cette voix tellement douce. Donc, qu'est-ce qui dérange Dina Kadere? Qu'est-ce qui l'embête aujourd'hui?
Non, ben, en fait, c'est la situation de la femme, le regard qu'on porte sur la femme aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire que parfois j'ai l'impression qu'on la chosifie, qu'on l'infantilise, et je vois, enfin, parce que j'ai lu et j'ai travaillé aussi, que du temps du messager il y a plus de 14 siècles, dans une région où régnait la barbarie, l'inhumanité, etc., et quand il y a eu la révélation, donc même si aujourd'hui certains, on va dire, certains penseurs peuvent promouvoir plutôt un message d'inégalité, etc., qui a eu lieu peut-être à cette période, mais en effet, il n'en est rien. C'est au contraire, le prophète l'a honoré. Elle participait au champ de bataille, elle donnait des avis juridiques, elle a été honorée par le Coran lui-même. Donc je trouve que lui-même, le prophète, s'est marié avec une femme qui avait 15 ans de plus que lui. Je trouve qu'aujourd'hui, ce serait impossible et impensable d'imaginer une situation pareille. Et donc, il y avait vraiment un respect de la femme, de son être, pas de son corps, et de son esprit, et ben, qu'on retrouve très peu aujourd'hui. Voilà, donc l'altercation portait un petit peu sur ça et sur l'égalité. Donc, on parle beaucoup de complémentarité, mais en fait, on veut une égalité de droit, une égalité en dignité, un respect de la dignité de l'être de la femme, de son esprit, et pas uniquement qu'elles doivent répondre à des exigences sociétales et des attentes sociales, femme, c'est qui l'infantilise en fait et qui la chosifie. Voilà, c'était ce que je voulais, c'était à peu près ça, mais bon, je pensais pas qu'on allait en parler.
Non, mais est-ce qu'il a été convaincu au final?
Oui. Non, mais j'avais pas du tout l'intention de le convaincre, je pense. En fait, ce qui est intéressant dans le débat, c'est de bousculer les idées des uns et des autres. Par exemple, quand j'enseigne, enfin, je suis enseignante à la fac, et en fait, ce que j'essaie, c'est pas du tout d'imposer mes idées, puisque probablement, il se peut que j'ai tort, mais ce qui compte, c'est de pouvoir justement, dans l'interaction avec les étudiants, et ben, d'essayer de bousculer les idées des uns et des autres afin justement de pouvoir enfanter les meilleurs. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, quand j'ai eu justement cette discussion, c'était d'essayer d'aller jusqu'au bout de notre pensée. Parce que finalement, parfois, eh ben, on hérite de la société. Il y a des pensées collectives qu'on intègre. Et parfois, on les dit sans vraiment comprendre ni savoir pourquoi. Non?
Absolument. Absolument. Non, non,
Il y a des phrases comme ça qu'on répète, tu vois.
Ouais.
Voilà, eh oui, non, parce que c'est une femme, tu vois. Genre, tu sais même pas si, ben, toi, je te vois, parce que là, avec tes stories, tu prends du poids. On en parlait. Et je trouve ça magnifique. Et donc, du coup, ça fait qu'on a vraiment des mots, des phrases qu'on sort sans même être conscient de la portée de ces phrases. Et puis, finalement, après, tout le monde les intègre. Ça s'inscrit, pardon, dans notre subconscient. Et puis, on finit par continuer à les utiliser sans même réfléchir à ce que finalement, le contenu est bon ou pas.
Ou pas
Où est-ce qu'il
exactement.
sert? Où est-ce qu'il est productif? Où est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il va participer à l'amélioration de, tu vois?
Ouais. Mais aujourd'hui, Dina, quand la femme en soi s'ouvre à ce débat, s'ouvre à ses idées, est-ce qu'elle n'est pas en même temps, au bout d'un moment, frustrée parce que l'entourage ne suit pas forcément? Ce n'est pas une dynamique générale, c'est une dynamique individuelle, ponctuelle.
Écoute-moi, enfin, dans le cadre de l'enseignement, enfin, j'ai remarqué que les. Je ne sais pas si je dois dire ça, mais les principales, en fait, responsables sont les femmes. Dans la mesure où c'est à elles, finalement, de réfléchir à ce qui les concerne, et à d'essayer d'apporter des réponses, de travailler les réponses et de travailler leur situation. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne juste un exemple. La semaine dernière, donc, je travaillais sur le code de la famille. Donc, il y a un article qui parle du fait que c'est l'homme qui doit entretenir donc, la maison et qu'elle peut porter plainte au cas où il l'entretiendrait pas. Donc, et puis, tu vois, parmi les étudiants, donc, les femmes, elles sont d'accord sur le fait que c'est à l'homme d'entretenir donc, tout ce qui concerne...
Tout ce qui est matériel, en fait.
Ouais, tout ce qui est matériel au niveau de la maison. Et c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tellement ancré en nous qu'on ne se pose même pas la question de savoir si c'est... Est-ce qu'on peut continuer comme ça, dans la mesure où, par exemple, le prof a travaillé chez Khadija et c'était elle qui le payait. Il est resté avec elle 15 ans, il était amoureux d'elle, il se mariait avec elle, il a eu des enfants, bon, pas tellement en l'occurrence, les garçons sont décédés. Et donc, je pense pas forcément que ce soit comme ça. Non, vraiment, tout ce que j'ai lu, à mon humble avis, vraiment, et c'est peut aussi, comme je t'ai dit, que je sois pas dans le vrai, mais tout ce que j'ai compris et lu, c'était vraiment une sorte d'égalité, de co-responsabilité, d'accompagnement. Même dit que le concept de... Donc, il y a un mot qui crée polémique enfin, beaucoup. En fait, c'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Tu vois? Genre, c'est celui à qui incombe justement la responsabilité parce qu'il a cette autorité, parce qu'il peut se permettre. Ce que j'estime être le plus important pour une vie, je vais l'appeler comme ça, une vie saine. Et c'est vraiment l'amour et la conception d'amour, le sens de la générosité. Et l'importance du pardon. Tu vois, par exemple, Yasmine, aujourd'hui, dans le développement personnel, on parle beaucoup du pardon, du fait qu'il faut te libérer de la rancune, etc., pour pouvoir vivre bien, sereine, en paix, etc. Eh bien, dans la dimension musulmane, par exemple, et dans la religion musulmane, on sait combien le pardon est essentiel dans quasiment tous les versets. Enfin, on parle, et si tu pardonnes, c'est meilleur pour toi. Enfin, ouais. Donc, en fait, on a cette dimension qui est d'ailleurs... devant chaque sourate du Coran, à part sourate Tawba, on a Dieu est miséricordieux, d'accord ? Donc, toutes ces dimensions-là, finalement, on la retrouve. Et on voit combien est-ce que ces valeurs sont essentielles, primordiales, cruciales, et puis finalement, ce sont les piliers de nos vies. La générosité, pareil. Et puis, bien sûr, l'amour qui a plusieurs composantes, y compris la compassion, etc. Donc, je pense que vraiment, je me suis focalisée sur ça énormément et j'espère... Et puis c'est tout un monde. Ça n'en finit pas.
Alors Dina Kaderi, justement, toi qui fréquentes beaucoup les jeunes, puisque tu es aussi prof universitaire, tu fréquentes énormément des jeunes femmes, des jeunes hommes, ceux qui sont la société d'aujourd'hui et de demain. Tu as quel regard sur ces femmes d'aujourd'hui, justement, ces jeunes femmes d'aujourd'hui? Tu vois quoi en elles?
Déjà, par exemple, dans les cours... Enfin, c'est important, elles ont une présence indéniable, une envie une soif de savoir et une envie de réussir très forte. Elles sont très sérieuses, bien sûr que je n'aime pas généraliser, mais je te parle de mes cours à moi et puis d'autres collègues de travail qui, pareil. Et puis, mais par contre, ce que je retiens aussi, c'est le manque de, pas d'ouverture d'esprit, mais... Le fait, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les croyances limitantes, les croyances collectives, elles imbibent énormément la société, elles sont présentes très fortement. Et je pense aussi que, avec les réseaux sociaux, finalement, ils n'aident pas à pouvoir balayer toutes ces croyances collectives et pouvoir justement nous élever au-dessus de cela.
Elles sont ancrées encore plus dans ces pensées limitantes.
Elles sont limitantes.
Ouais, complètement.
Elles sont limitantes quand tu parles de la femme avec des... Quand tu utilises des critères qui n'ont pas pourquoi être, tu vois, qui n'ont pas non plus de raison d'être, ni sur le plan religieux, ni sur le plan légal, tu vois, ni sur le plan social. Et je pense que c'est important de pouvoir évoluer dans ce sens-là, dans le sens des valeurs uniquement. Voilà, je pointe vraiment du doigt les valeurs tout le temps.
Absolument. Exactement. On revient beaucoup à ça avec toi, Dina. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc toi, tu travailles entre Tanger et Rabat, c'est ça? C'est que tu es souvent, tu es souvent dans le Borac?
Le jeudi, normalement. Enfin, une fois par semaine, ça dépend du planning. Parfois jeudi, parfois un autre jour. Et je travaille aussi avec M. Hepadi. Je ne sais pas si c'est Ahmed Hepadi, qui est secrétaire général de l'hôpital Mohamedien. Et dans un centre qu'il a créé à Tétouan, c'est le centre AGL. Et justement, puisque tu parlais des jeunes, donc on encadre différentes jeunes, femmes et hommes, jeunes filles et jeunes garçons, pardon, qui sont issus donc des écoles publiques. Et on travaille sur des thématiques. Par exemple, dernièrement, on avait travaillé sur la drogue. Et par le biais de capsules qu'ils vont donc réaliser, ils écrivent les scénarios, ils réalisent les capsules. Ils sont encadrés par un professeur qui s'appelle Monsieur Tredadi, qui est un professeur de cinéma. Et par la suite, donc, ils essaient de faire passer des messages pour sensibiliser leurs camarades au danger de certains comportements déviants, en l'occurrence la drogue. Et puis ça passe super bien. Ce sont des capsules vidéo de 2 minutes, 1 minute et quelques, et 4 minutes. Et le message est impactant. Et puis on voit combien aujourd'hui, en fait, on peut faire passer des messages de vie, des messages de prise de conscience de la réalité, etc., juste à travers les vidéos, des images, même parfois sans parler. On travaille beaucoup avec eux.
Alors Dina, est-ce que tu pourrais dire que ce qui a changé le cours de ta vie, c'est le jour où ta maman a eu un cancer?
Non, je pense qu'il y a peut-être sur le plan religieux, parce que ça m'a permis de m'intéresser davantage. C'était un choc, mais c'est aussi vraiment, je vais dire, c'est multifactoriel. Oui, c'est multifactoriel, parce que je pense qu'en fait, on est à chaque fois qu'on réussit à toucher un certain éveil. Et à chaque période, je veux pas dire, c'est pas question d'année parce que je suis pas pour la quantité mais la qualité. Et je pense qu'à un moment où à la suite d'une expérience particulière comme tu as cité celle-ci ou bien d'autres, eh bien il y a un éveil qui s'opère. Et cet éveil, c'est une occasion, une opportunité de t'ouvrir à un monde de façon différente, avec plus de lucidité et un regard plus profond. Et c'est, je pense, notre choix à tous de décider de fermer les yeux, de les ouvrir à ce moment-là. Et d'ouvrir le cœur aussi.
Alors justement, tu as dit ça a été un choc. Tu l'as très mal vécu, c'était difficile?
Non, c'était un rappel de la fragilité de la vie.
D'accord.
Je pense que c'est un rappel. Ce sont des rappels. Les moments les plus durs, finalement, ce sont des rappels et c'est une école. Chaque moment difficile, chaque épreuve qu'on passe, c'est une école. Et je pense que ça m'a juste donné un coup. Et ça m'a rappelé que finalement, la vie est fragile et qu'il faut justement y réfléchir et pas se laisser aller.
Alors, la crise de milieu de vie, celle qui accompagne les femmes autour de la quarantaine, est-ce que ça a été aussi... est-ce que ça s'est bien passé? Ça a été fluide pour toi, ou ça a été aussi un moment d'arrêt, de contemplation de ta vie?
Non, je pense que, enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure, toutes les périodes, au moment où tu as tes enfants, au moment où tu te maries, au moment où justement à cette période-là, ou bien dans d'autres épreuves, c'est pour moi un moment d'arrêt et de réflexion, toujours. Enfin, la réflexion, elle embrasse le négatif et le positif, mais l'objectif, c'est de pouvoir en ressortir justement le positif. Ton positif, parce que je pense que mon positif n'est pas le tien non plus, et que l'essentiel, c'est que de trouver justement le chemin de sérénité et de paix qui va pouvoir t'élever dans les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Pouvoir justement être plus bienveillante, pardonner davantage. Moi, je pense qu'en fait, le sens de la vie, c'est ça. C'est essayer de prendre conscience de ces valeurs, de les intégrer, de travailler dessus et d'essayer de se connaître. Parce que en fait, on est, mais souvent, il y a des personnes qui meurent sans avoir été en éveil. C'est-à-dire, vous naissez physiquement, mais
sans s'être réveillé
aussi.
De l'intérieur.
Il faut naître aussi, voilà. Il faut naître de toutes les façons possibles et il faut naître de façon à prendre conscience et à être conscient.
Mais ça fait mal aussi quand on se réveille, Dina, non?
Ben, c'est un choix. C'est pour ça que je t'ai dit que mon positif ne sera pas le tien. C'est-à-dire qu'après, chacun décide est-ce que tu as envie de vivre les yeux bandés ou là, tu préfères...
non, réellement... mais quand je dis ça fait mal, ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Parce que quand on se réveille, on se réveille. On ne peut pas se rendormir.
C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense que la douleur, c'est une école.
C'est une école, exactement.
Ce dont j'ai le plus appris, c'est justement des douleurs. Elles ont été négatives, mais positives.
Ouais, elles sont négatives au moment où on les ressent, mais après, il y a tout cet apprentissage. Absolument, il y a tout cet apprentissage après.
Absolument.
La société marocaine dans laquelle on évolue, Dina, en tant que femme, surtout lorsque, on va dire que, voilà, on n'a plus 20 ans, 30 ans, est-ce que c'est une société qui nous accompagne ou au contraire, selon ton expérience, c'est une société qui nous rend, à nous les femmes, la vie un peu plus complexe?
Écoute, moi, je pense qu'en fait, aussi bien aux femmes qu'aux hommes, on la rend difficile. Non, si je devais schématiser, on demande aux hommes, déjà, je ne sais pas si le dire comme ça publiquement, mais on demande aux hommes d'avoir du pouvoir, de l'argent, d'être bien positionné, à la femme d'être belle, d'être jeune, d'être gentille. Je pense que en fait, je schématise, d'accord. J'aime pas schématiser non plus, mais je pense qu'effectivement la société est en train d'imposer un schéma de vie qui n'est probablement pas celui qui va apporter le plus de bonheur à tous et celui d'authenticité dans les relations.
C'est ça.
C'est-à-dire que à un moment, on intègre ce schéma pas par complaisance, mais parce qu'on fait pas d'efforts. Et parce qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui sortent du lot, et ben, elles sont peut-être mal vues ou bien jugées, etc. C'est beaucoup plus facile de juger. Moi, je disais toujours aux étudiants qu'on était très de nous ambulants. Chaque personne se permet de juger parfois ce qu'elle n'a pas atteint, parfois ce qu'elle n'a pas compris. Et je pense que voilà, c'est pour ça que les valeurs en religion musulmane sont essentielles si on essaie de les comprendre correctement, parce que finalement, le jugement est complètement à ôter de la vie de tous les jours. Le jugement, finalement, si on réfléchit un peu, c'est énorme, tu vois. C'est vraiment quelque chose à ôter de sa vie. Et aujourd'hui, on oublie que c'est ça qui compte. Et c'est ça qui importe pour un vivre ensemble plus serein et plus fraternel et heureux.
Dina Kadiri, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir
merci
été ma femme d'aujourd'hui.
De
merci à toi de t'être ouverte à moi.
Merci
beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.